est une rediffusion.
Voilà. Yeah.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, le droit est une force. Encore faut-il avoir la détermination à le faire appliquer. Nos deux invités l'ont. Ils ont consacré leur vie à imposer le droit de l'environnement contre des pollutions industrielles, des chantiers d'infrastructures inutiles, des multinationales sans scrupules, les pesticides, les OGM, et depuis peu contre l'État français qui ne respecte pas ses engagements pour limiter les changements climatiques. Le droit évolue au gré des décisions de justice, c'est le principe de la jurisprudence, et c'est avec acharnement, rigueur et ingéniosité que nos invités ont contribué à son écriture. Le droit de l'environnement est devenu incontournable en France, alors qu'il y a un demi-siècle, il n'existait pas. Deux parcours inspirants pour ceux qui aimeraient que ce droit soit appliqué dans leur pays. Il l'est si peu dans le monde, ou alors au péril de la vie de ceux qui s'en réclament, en Afrique francophone notamment. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Corinne Lepage.
Bonjour et merci de nous inviter.
Mais je suis ravie, vous êtes avocate depuis 1975, vous avez publié plus de 500 articles et une trentaine de livres, vous avez été ministre de l'Environnement sous les gouvernements d'Alain Juppé de 1995 à 1997 et eurodéputée de 2009 à 2014. Bonjour Christian Huglot.
Bonjour.
Vous êtes avocat depuis 1968, vous avez publié vous plus de 300 articles et études sur le droit de l'environnement, plus récemment deux livres sur la justice climatique. Et vous avez créé en 1992 le jurisclasseur environnement, c'est la bible de l'évolution du droit de l'environnement que vous codirigez toujours. Alors vous êtes mari et femme à la ville, comme on dit, mais à la cour de justice évidemment. Vous êtes collègue puisque vous avez fondé le cabinet Huglot Lepage depuis 1978 et vous venez de publier Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat chez Actes Sud. Et alors vous écrivez dès l'introduction, il faut bien se rendre à une triple évidence. Premièrement, l'émergence du droit de l'environnement a été laborieuse tout au long de ces 50 années. Deuxièmement, il est loin d'être toujours appliqué sérieusement et efficacement. Et enfin, paradoxalement, il est l'objet de régressions rendues d'autant plus significatives que les crises à répétition liées à la question environnementale deviennent un prétexte à ce recul. Par exemple, la suppression des enquêtes publiques au prétexte de la Covid-19. C'est cela votre bilan, Corinne Lepage, après 50 ans d'exercice ?
Bon, il y a eu des succès qui n'ont pas été que franco-français. L'affaire de Lamoco-Cadiz qui a été conduite par Christian était un succès, je dirais, avec des répercussions planétaires, puisque le tribunal américain a jugé que les sociétés mères étaient responsables pour leurs filiales. Ça vaut pour les sociétés multinationales américaines et donc évidemment ça a des conséquences partout. L'Erika dont on parlera peut-être a des conséquences européennes extrêmement importantes. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons noté depuis malheureusement quelques années, sous prétexte de simplification, d'aller plus vite, de simplifier les normes, etc., etc. C'est toujours les normes environnementales, les normes sociales aussi d'ailleurs, mais enfin, en ce qui nous concerne, les normes environnementales qui passent à la trappe. Et il y a plus d'enquêtes, des enquêtes publiques de manière beaucoup plus rare, il y a beaucoup moins d'études d'impact, les projets importants ne sont plus soumis à des autorisations, mais à de simples agréments, donc il n'y a pas d'enquête publique, il n'y a pas de gros dossiers, etc. En fait, la question environnementale, j'aurais tendance à dire parfois que plus on en parle et moins on en fait.
C'est pas un bilan très positif, Christian Huglot.
J'ajouterais quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure que le droit est une force.
C'est vous qui l'avez écrit.
Oui, hein. C'est vrai, mais c'est bon de le répéter, effectivement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le droit est fait par la société civile, qui est récupéré par les parlements, par les États la plupart du temps. Mais ce qui se passe dans l'affaire du droit de l'environnement actuellement, c'est qu'il change de nature. C'est plus le droit local, simplement, c'est maintenant le droit international, le droit global. Et à chaque fois, on est obligé de recréer un mouvement de force qui est tout à fait identique, qui est poussé par la société civile. Nous n'aimons pas ni l'un ni l'autre principe de non-régression, nous sommes pour le principe de progression du droit de l'environnement.
Oui, parce qu'il y a un principe qui existe, qui est le principe de non-régression du droit environnemental.
Il est très variable. Hein.
Oui, géométrie variable. Puis il est de valeur législative, il n'est pas de valeur constitutionnelle, heureusement. Moi, je ne suis pas d'accord. Comment dirais-je heureusement ?
Tu dis heureusement, il n'est pas de valeur constitutionnelle.
Non, moi je préférais un principe de progression. Je ne veux pas de principe de non-régression.
Ah oui, ben, ce serait déjà mieux que rien. Quoi.
Oui, mais je préfère l'autre. Je préfère aller en avant.
Il y a un point à étudier là. Alors, vous avez mené des batailles qui ont marqué l'histoire du droit. Hein. Vous les racontez dans votre livre. Je pense notamment au combat juridique contre Total. Ce n'est pas rien, suite à la marée noire provoquée par le naufrage de l'Erika, qui en décembre 1999 déversa une partie de ses 60 000 tonnes de fioul sur les côtes bretonnes, dans l'ouest de la France. Il y a un avant et un après, procès de l'Erika.
C'est clair. En fait, il faut comprendre que l'Erika, c'est le bébé de la Moco, quelque part. Avec le succès de la Moco Cadiz, dont j'ai parlé tout à l'heure.
C'était quand la Moco Cadiz ?
1992.
78-92, bon. Aux États-Unis.
Et donc, avec la Moco, on a fait juger quoi ? Que les maires étaient responsables pour leurs filiales. Ça veut dire que les pétroliers ont vendu leur flotte. Ils sont devenus affréteurs, c'est-à-dire qu'ils louent les bateaux. Un affréteur, c'est celui qui loue le bateau. Et ce qui concerne le régime de responsabilité des pétroliers, je ne dis pas forcément du pétrole en mer, parce que le pétrole, ça peut être du pétrole de soute, ce n'est pas un pétrolier. Des pétroliers, c'est une convention qui exonérait très largement la responsabilité des propriétaires, du temps où les pétroliers étaient propriétaires. Quand ils n'étaient plus propriétaires, ça ne les intéressait pas, évidemment. Donc, ils sont devenus affréteurs. Et ils ont obtenu les mêmes dérogations, si je puis dire, que pour les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont responsables, j'allais dire que s'ils ont tué père et mère, peut-être pas, mais s'ils ont vraiment voulu l'accident. Et c'est dans ce contexte qu'arrive l'Erika. L'Erika, c'est un bateau dans lequel Total est affréteur, qui est un bateau poubelle, qui transporte des fioles lourds, c'est-à-dire très sales, c'est du goudron qu'on chauffe. C'est un pétrolier qui est à son dernier voyage. Et Total l'a choisi plusieurs fois, 6 ou 7 fois, avant le voyage fatal, en s'asseyant largement sur ses règles internes, ce qu'on appelle les règles de vetting, de contrôle des bateaux. Et donc, quand le dossier arrive, nous voyons avec Christian tout de suite le problème posé par cette convention. Parce qu'on se dit on va gagner au pénal, parce qu'il y a une pollution de l'eau, c'est absolument indéniable. Mais Total risque de ne pas voir sa responsabilité civile engagée à cause de cette convention. Et c'est là où nous avons eu l'idée de trouver une autre solution.
Dit-il en se regardant avec un regard complice, on sent que ça vous excite encore.
Oui, c'est actuel, vous savez. Oui.
On s'est dit, mais après tout, les boulettes, c'est des déchets. Et donc, on va essayer de faire appliquer la législation déchets à ces boulettes. Alors, je ne vous dis pas les cris d'orfraie du monde du droit maritime en disant qu'on était des nazes et qu'on ne connaissait rien au droit maritime. Si, justement, c'est parce qu'on le connaissait, qu'on le contournait. Et après avoir perdu en première instance et en appel, la Cour de cassation a dit « c'est peut-être pas complètement idiot, on va interroger la Cour de justice de l'Union européenne qui nous a donné raison ». Et donc, qui a jugé au niveau communautaire que le pétrole en mer, c'était des déchets, que la législation déchets communautaires était applicable. Donc, c'est valable non seulement pour les pétroliers, mais par exemple pour toutes les plateformes offshore. C'est la même chose, c'est le même régime juridique. Et que l'affréteur, certes, ne pouvait pas voir sa garantie recherchée, mais que s'il avait contribué à faire que ce qui était un produit devienne un déchet à cause de l'accident, autrement dit, s'il était responsable en toute ou partie de l'accident, à ce moment-là, il devait payer pour tout ce qui n'était pas garanti par le Fonds de garantie international.
Voilà. Et du coup, et donc, Total a dû indemniser les collectivités qui
ont
été polluées.
Quand même, on a gagné les deux. Les deux, mon général, parce que donc on a gagné ça, et on a gagné à la Cour de cassation, qui a considéré que la faute de Total était suffisamment grave pour engager sa responsabilité, et donc l'a condamné à payer et à régler le préjudice écologique sur lequel Christian avait travaillé et qu'il a fait juger.
Mais Christian Huglot, il a fallu 13 ans de combat pour en arriver là.
Oui, mais la Moco Cadiz, 14 ans, c'est des procès fleuves. Nous avons défendu les collectivités néerlandaises qui étaient victimes de la pollution du Rhin par le sel des mines de potasse d'Alsace. Le procès a duré 30 ans. On a fini par y arriver. Mais vous savez, c'est des procès que seules les collectivités peuvent porter. Parce que vous avez un rapport de force avec l'adversaire Quand on était dans l'affaire de la Moco-Cadiz, des avocats américains fort sympathiques sont venus nous voir et ont dit « Vous êtes de très bons avocats, mais c'est pas grave, on va vous écraser sous les dollars. » Oui, l'opération. Donc, il n'y a rien de tel pour motiver, n'est-ce pas?
Alors, il aura fallu donc plus de 13 ans pour arriver à vos fins, mais sous d'autres latitudes, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux. C'est l'une des pires pollutions de l'histoire, là aussi après 20 ans d'exploitation de pétrole en Amazonie, à la frontière de l'Équateur et de la Colombie. La compagnie Texaco Chevron a laissé derrière elle 80 000 tonnes de résidus toxiques en plein cœur de la forêt primaire. Pablo Farrardo a travaillé pour la compagnie. Puis pendant des années, il s'est payé des cours de droit pour devenir avocat afin de mener une action judiciaire pour obtenir des indemnités au nom des 30 000 plaignants contaminés qu'il représente. Il retrace son histoire dans une bande dessinée, Texaco et pourtant nous vaincrons, publiée aux éditions de la Reine. Nous l'avons rencontré à Paris.
Le dommage causé par Chevron a commencé il y a 52 ans. Et ce dommage est toujours présent, les conséquences sont toujours présentes dans l'eau, dans les sols qui sont pollués et qui causent la mort d'espèces animales, d'oiseaux et aussi d'êtres humains.
Et
en raison de ces déchets toxiques qui sont présents dans l'environnement, nous avons le taux le plus élevé de cancer en Équateur.
Et ce dommage causé par Chevron,
et donc ces dommages persistent aujourd'hui. Si on va dans n'importe quelle zone où Chevron a exploité le pétrole, on peut voir les déchets.
Alors vous avez attaqué Texaco en justice sur le sol américain où se trouve son siège social. Le géant Chevron qui a racheté Texaco en 2001 a obtenu la délocalisation de l'affaire en Équateur sous prétexte que c'est là que vous résidez, vous les plaignants. Et en 2011, la Cour équatorienne de la province de Sucumbíos condamne la multinationale à une amende historique de 9,5 milliards de dollars de réparation. C'était une belle victoire, mais encore fallait-il faire appliquer cette décision.
Nosotros planteamos nuestro juicio en el
2011, nous avons eu la première décision de justice favorable aux plaignants et à la vie et défavorable à Chevron.
En esa condena, obviamente, Chevron tiene que pagar.
Et selon cette condamnation, Chevron doit payer 9,5 milliards de dollars pour décontaminer la zone.
Esa decisión judicial de primer nivel fue apelada y ganamos en el segundo nivel en el 2012.
Et donc il y a eu un appel après cette première condamnation en 2012. Les plaignants ont une nouvelle fois gagné en appel. Ce jugement a encore été confirmé en 2013 et puis aujourd'hui il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Donc c'est-à-dire que le plus haut niveau de la justice équatorienne a validé cette condamnation contre Chevron.
Donc ça, c'était en 2018, quand la Cour constitutionnelle de l'Équateur a validé définitivement ce jugement. Mais du coup, Chevron ne s'est pas arrêté là. Ils ont tenté des actions à travers des tribunaux d'arbitrage. Alors, quelle est la situation aujourd'hui, puisqu'il y a eu un renversement de situation? La Cour permanente d'arbitrage de La Haye a condamné l'Équateur à payer des dommages et intérêts à Chevron sur la base du traité de protection des investissements entre les États-Unis et l'Équateur. Avec quels arguments? Parce que c'est quand même un renversement de situation incroyable.
Chevron a suivi trois lignes juridiques distinctes. La première, ça a été une action contre nous menée aux États-Unis où ils ont invoqué la loi RICO pour essayer de nous faire passer pour des criminels et faire passer l'entreprise pour une victime.
Chevron construyó pruebas falsas.
Ils ont construit de fausses preuves pour faire croire qu'il n'y avait pas de contamination de l'environnement, mais une association de malfaiteurs qui essayait de leur extorquer de l'argent.
Sin embargo, en el laudo arbitral.
Dans le jugement rendu le 30 septembre 2018 par cette cour d'arbitrage, il est demandé à l'État équatorien d'annuler la condamnation qui concerne notre affaire à nous contre Chevron. Et cela, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'un tribunal d'arbitrage prétend être supérieur à une décision de justice rendue par l'État équatorien. C'est-à-dire que les tribunaux d'arbitrage demandent à l'État équatorien de violer sa propre constitution.
Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que tout le droit international est fait pour donner raison aux multinationales et pas aux plaignants comme vous.
Aquí hay una realidad global.
Oui, c'est une réalité. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas de loi contraignante qui permette de juger les crimes comme ceux commis par Chevron en Équateur. Il y a des cours de justice internationale, comme la Cour pénale internationale, qui permettent d'attaquer un État, mais pas des multinationales. Il y a donc un grand vide juridique et d'un autre côté, les multinationales utilisent les traités de libre-échange pour imposer leurs intérêts.
Elles ont beaucoup de droits.
Et les multinationales ont donc beaucoup de droits et pas de devoirs par rapport à ce qu'ils font, notamment dans ce cas-là en Équateur.
Et ce feuilleton judiciaire n'est pas terminé, puisque Steven Donziger, l'un des avocats américains qui, en 2011, a fait condamner la multinationale Chevron à dédommager les communautés équatoriennes polluées par l'extraction pétrolière, eh bien cet avocat est aujourd'hui accusé de faux témoignages par un juge new-yorkais. Il est assigné à résidence avec un bracelet électronique depuis 600 jours. Il a fait appel et le verdict est attendu très prochainement. Comment réagissez-vous à cette affaire, Corinne Lepage?
Moi, je suis un ennemi juré des tribunaux d'arbitrage dans les conventions internationales. Quand j'étais député européen, je me suis beaucoup battue contre ça. Parce que, évidemment, c'est des atteintes majeures à la souveraineté des États, des atteintes majeures aux droits des populations, aux droits des victimes, aux droits des autres entreprises qui ne sont pas multinationales, et à la liberté des États de légiférer comme ils l'entendent. Donc c'est absolument insupportable et excessivement dangereux. Mais on voit bien pourquoi on parlait de stratégie de contournement. Les multinationales, quand elles ont vu qu'elles pouvaient être condamnées, qu'est-ce qu'elles ont cherché? À ne plus être soumises aux juridictions. C'est extrêmement simple. Donc maintenant, ce que nous devons, nous, tous les autres, trouver, c'est comment faire en sorte que ces tribunaux ne puissent pas, ces tribunaux d'arbitrage ne puissent pas continuer leur œuvre.
Oui, parce que Christian Huglot, ça veut dire que les multinationales sont juridiquement plus puissantes que les États.
Vous avez le même phénomène dans les traités genre Canada-Europe, vous savez, pour les questions d'investissement. Et donc, on a réfléchi avec Corinne déjà sur la façon de contourner ces tribunaux d'arbitrage en permettant, par exemple, aux associations d'intervenir dans la procédure d'arbitrage pour montrer que cela n'est pas conforme au droit européen. Mais pour revenir à votre affaire, là, quand même, il y a quelque chose de terrible. La décision d'arbitrage n'aurait jamais pu être rendue s'il n'y avait pas eu la complicité de l'État d'Équateur, n'est-ce pas ? Et donc, c'est quelque chose d'absolument extravagant que l'État d'Équateur accepte d'annuler sa propre juridiction. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans la question de la séparation des pouvoirs. Et moi, je crois, en écoutant ce qui a été dit, c'est quelque chose d'exemplaire qui devrait être connu. Moi, je pense que ça pourrait faire presque l'objet d'un procès fictif, comme cela a été fait pour l'affaire Monsanto, c'est Corinne qui a eu l'idée là-dessus, de réunir des juges et de remettre le dossier sur place, et en disant où est le droit. Parce que ça, c'est la mort du droit de l'environnement.
Écoutez, l'idée est lancée sur RFI, à suivre, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus les pays sont pauvres, plus il est difficile de faire appliquer le droit de l'environnement. Nous en parlons dans un instant avec Yacouba Savadogo, conseiller technique du ministre de l'Environnement du Burkina Faso et coordonnateur du réseau de l'Afrique francophone des juristes de l'environnement. Mais tout d'abord, place à la Cora et à l'un de ses maîtres guinéens, Ba Sissoko sur RFI. Détendez-vous, on est jeudi.
Balama,
Sissoko dans C'est pas du vent sur RFI. Nous recevons deux avocats aujourd'hui, Corinne Lepage et Christian Huglot. Ils ont consacré leur vie au droit de l'environnement qu'ils ont en grande partie contribué à écrire. Un récit palpitant à lire dans leur dernier livre écrit à quatre mains, Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat, publié chez Actes Sud. Corinne Lepage disait que vous aviez contribué donc à écrire le droit de l'environnement à travers tous les procès que vous avez menés, mais aussi plus concrètement parce qu'avec votre cabinet, vous avez en 2008 révisé la charte de l'environnement du Gabon, ça c'est moins connu. C'était à la demande de la ministre de l'Environnement de l'époque, Georgette Coco, que l'on salue au passage, pour permettre au Gabon, je cite, de réconcilier les objectifs de développement du pays avec l'exigence de la pérennité des ressources. Vous vous en souvenez ?
Ah oui, très bien. Très bien, parce que c'est un travail que nous avons mené, bien entendu, en étroite liaison avec le gouvernement gabonais. Fallait coller, parce que protéger la forêt, oui, bien sûr, mais il fallait aussi laisser un peu de place au développement économique. Donc comment est-ce que on fait du développement, je dirais pas durable, parce que j'aime pas le mot, mais disons soutenable, c'est-à-dire capable d'être supporté par les ressources dans des pays aussi riches, parce qu'ils ont tout. En termes d'hydrocarbures, de forêts, d'eau, enfin, c'est un pays d'une richesse fantastique. Voilà, et donc on a essayé de trouver des équilibres intelligents au sein de ce code de l'environnement, dont je sais qu'il a été publié ultérieurement et dont je crois qu'il a inspiré quelques autres États de l'Afrique francophone.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Yacouba Savadogo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes conseiller technique du ministre de l'Environnement du Burkina Faso et coordonnateur du réseau de l'Afrique francophone des juristes de l'environnement. Et je crois que vous avez déjà rencontré Corinne Lepage. Il n'y avait pas son mari Christian Huglot, mais vous me disiez que leur cabinet était assez connu en Afrique francophone parce que leurs travaux ont inspiré pas mal de législation dans le domaine du droit de l'environnement. Alors combien de pays d'Afrique francophone disposent aujourd'hui d'un droit de l'environnement ?
Aujourd'hui, je peux dire que la quasi-totalité des États africains ont des cadres juridiques bien structurés qui protègent leur secteur en matière d'environnement. Et on est même allé plus loin, parce que bon, quand on parle de cadres juridiques, on peut voir nos différentes lois-cadres, nos différentes lois sectorielles sur la forêt, sur l'environnement, sur l'assainissement, sur l'eau. Mais les pays africains sont allés même plus loin, parce que si on fait un tour d'horizon, des constitutions, c'est-à-dire des lois fondamentales donc, de ces pays africains, vous allez voir que, effectivement, donc, c'est beaucoup donc, de ces pays africains ont consacré donc, une part importante donc, du droit de l'environnement dans la constitution, en consacrant justement donc, ce que nous appelons le droit à un environnement.
Donc, les textes existent. Maintenant, quel est le niveau d'application du droit de l'environnement en Afrique ?
Et c'est là le problème. Parce que j'ai eu à plusieurs occasions de présenter donc la situation donc du droit de l'environnement en Afrique à beaucoup de conférences internationales. Et chaque fois, lorsqu'il m'arrivait donc de revenir sur le sujet, sur la question, je disais que on peut caractériser le droit de l'environnement africain en deux grands points. Le premier point, c'est qu'il est étouffé parce que justement donc la quasi-totalité donc des secteurs environnementaux en Afrique sont régis donc par des textes. Mais le deuxième point qui caractérise donc le droit de l'environnement en Afrique, c'est que c'est un droit très, très faiblement mis en œuvre. Enfin, il y a un peu longtemps de cela, on est même arrivé à parler donc d'une ineffectivité des droits de l'environnement, mais ces derniers temps, nous avons revu donc notre copie, parce que quand on parle donc d'ineffectivité, ça veut dire que c'est un droit qui n'est carrément pas mis en œuvre, mais de nos jours, on ne peut plus parler donc d'ineffectivité, parce que si on fait le tour d'horizon, on se rend compte qu'il y a justement donc un début donc d'application donc de ce droit de l'environnement. Donc en révisant notre copie, nous sommes donc quittés donc du vocable donc d'ineffectivité pour maintenant donc parler d'une faible effectivité donc des droits de l'environnement en Afrique.
Comme dit Corinne Lepage, il y a donc un progrès, ça c'est déjà une bonne nouvelle, même s'il semble mince d'après ce que vous dites. Qu'est-ce qui justifie cette difficulté à appliquer ce droit? C'est quoi? C'est le manque de formation des juristes? C'est la puissance des lobbies? La corruption?
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui justifient donc cette faible effectivité donc des droits de l'environnement en Afrique. Effectivement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, manque de formation des acteurs, c'est vrai. Mais c'est nous, dans les États africains, il y a encore d'autres causes qui sont encore peut-être un peu spécifiques à nos États africains qui justifient justement donc un peu cette faible mise en œuvre. Comme exemple, vous savez, ici, quand on prend donc une loi, je prends par exemple une loi sur la forêt, la même loi sur la forêt peut prévoir peut-être une dizaine, une vingtaine de textes d'application de mise en œuvre donc de cette loi cadre. Maintenant, dans certains États, il peut même arriver que quand on adopte donc la loi et qu'on prévoit donc l'élaboration donc des textes donc de mise en œuvre, il arrive même que la loi même soit remise donc dans un processus de révision sans que ces textes d'application ne soient élaborés. Ça veut dire que entre l'élaboration de la loi et l'élaboration donc de cette application, il y a souvent 5 ans, il y a souvent 10 ans, souvent même pas. En deuxième élément, vous savez, si nous écoutons un peu l'intervention de nos deux avocats bien présents en droit de l'environnement, c'est nous, dans la quasi-totalité donc de nos États africains, le contentieux environnemental est résolu par le biais de la transaction. Transaction qui veut dire quoi? Lorsque on a un délinquant qui viole une règle en matière d'environnement, l'administration environnementale saisit la personne et vous dit, bon, vous avez commis telle infraction, nous on a des possibilités. Soit nous vous envoyons donc devant les tribunaux pour juger, ou bien on vous demande de payer une certaine somme sous forme transactionnelle. Et nous, administration en matière d'environnement, nous abandonnons donc la procédure judiciaire. Cette formule, elle arrange tout le monde. Pourquoi? Elle arrange justement donc l'administration en matière d'environnement. Parce que les textes octroient, je crois, entre 10 et 30% du montant versé aux agents qui ont constaté et verbalisé. Mais aussi, de l'autre côté, le délinquant est prêt à payer parce que ça lui permet d'avoir du temps pour continuer dans cette affaire. Et ça lui permet également donc d'avoir un casier judiciaire vierge.
Donc tout le monde s'y retrouve en fait.
Il y a quatre qui se retrouvent, pas c'est l'environnement.
Merci beaucoup Yacouba Savadougo pour toutes ces explications. Vous disiez Corinne Lepage, du coup il y en a qu'un qui s'y retrouve pas.
Il ne se retrouve pas, c'est l'environnement, c'est les ressources. Parce que ce qui est important en matière d'environnement, c'est de réparer et de prévenir. Et le caractère dissuasif de la sanction, il évite que d'autres fassent les mêmes choses. À partir du moment où vous transigez et que tout le monde s'arrange comme ça, la fonction de prévention du droit, on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment mise en œuvre. Mais bravo pour les efforts qu'ils font quand même, parce que c'est méritoire dans des pays où le sujet n'est pas majeur, parce qu'il y a tant de problèmes économiques, tant de problèmes sociaux, tant de problèmes de développement, pour ne pas parler du reste. D'avoir la conviction de continuer de se battre pour ça, je trouve que c'est formidable.
Ouais. Christian Huglot.
Il y a quelque chose à ajouter. J'ai remarqué que la position des États africains vis-à-vis du changement climatique était une position assez dynamique. Ils ont une magnifique, grande convention internationale qui est très spécifique puisqu'il allie les droits humains, les droits de l'environnement. Et cette voix se fait entendre, si vous voulez, au point de vue international, et ne peut pas faire autrement que de rétroagir. Parce que vous ne pouvez pas prôner l'environnement à l'extérieur et vous ne pouvez pas le détruire à l'intérieur. Et donc, il y a un espoir de ce côté-là, si vous voulez. Ils ne vont pas suivre le même chemin que nous. D'ailleurs, au passage aussi, nos magistrats à nous, ils sont pas toujours très compétents en matière d'environnement. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de juges compétents en matière d'environnement en Afrique. C'est une question de formation aussi. Donc tout ça est long et tout ça est difficile. Mais je crois que la voie qu'ils vont emprunter sera la voie courte. Et ce sera intéressant à suivre.
Alors justement, vous parlez de justice climatique. C'est une nouvelle justice environnementale qui est en train de prendre une ampleur importante depuis quelques années. Nous en parlons juste après la voix envoûtante de la Ghanéenne Charlotte Dada qui reprend ce tube des Beatles, Don't Let Me Down. Don't let me down. Don't let me down.
like he does. Ooh, he does. Yes, he does. And if somebody loved me like he do, ooh, he do. Yes, he does. Nobody ever really done me. Oh, he done me. He done me good.
Don't Let Me Down des Beatles, interprété en 1971 par la Ghanéenne Charlotte Dada dans C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de l'évolution du droit de l'environnement aujourd'hui avec deux avocats chevronnés, Corinne Lepage et Christian Huglot, qui viennent de publier « Nos batailles pour l'environnement ». 50 procès, 50 ans de combat, publié chez Actes Sud. Alors la troisième partie de votre livre s'intitule « Les procès de demain ont commencé hier ». Et vous accordez une large part à un nouveau type de procès qui prennent de l'ampleur sous la pression de la société civile. Ce sont les procès contre les États ou contre les entreprises, au nom justement de la justice climatique. Et à ce sujet, vous êtes sur le point de remporter une victoire en France, Corinne Lepage.
Oui, nous avons introduit il y a maintenant 2 ans et demi, c'était en la fin de l'année 2018, oui c'est ça, au nom de la commune de Grande-Synthe, qui est une ville qui est à côté de Dunkerque, donc qui a les pieds dans l'eau, et de son maire qui est Damien Carême, qui n'est plus maire puisqu'aujourd'hui il est député européen, une action pour demander au Conseil d'État d'annuler le refus que nous avait opposé le ministre de l'Environnement et le Premier ministre de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre nos objectifs et
nos objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et d'obliger l'État à agir. Nous l'avons fait quelques mois avant que l'affaire du siècle ne démarre, qui elle s'est placée sur un plan un petit peu différent, qui de faire reconnaître la responsabilité de l'État. Nous, ce n'était pas tant la responsabilité qui nous importait que l'obligation d'agir. Et donc, le Conseil d'État a rendu une première décision le 19 novembre sur notre requête, en la jugeant recevable, ce qui était déjà très important. C'est un travail que Christian a fait pour faire juger la recevabilité des villes, parce que en quoi des villes sont-elles recevables à attaquer le refus d'un État au niveau national, vous voyez ? Et puis faire reconnaître l'obligation qu'avait l'État de respecter la loi de programmation bas carbone qui avait été votée. Et il a donné à l'époque 3 mois à l'État pour justifier qu'il était dans les clous. Et donc ces 3 mois se sont écoulés, nous avons rééchangé des mémoires et vendredi dernier, il y a eu l'audience au Conseil d'État où le rapporteur public, c'est-à-dire un magistrat du Conseil d'État qui donne l'avis en droit, le Conseil d'État n'est pas du tout obligé de le suivre, disons que dans 9 cas sur 10, il est suivi, mais pas dans tous les cas, donc il y a toujours un point d'interrogation, a proposé de nous donner satisfaction. Alors, ce serait évidemment très important, parce que on parle beaucoup de la loi climat-résilience, même le rapporteur du Sénat sur ce texte, Christian me disait ça il y a 2 jours, a jugé qu'on n'était même pas au quart de ce qu'il fallait faire pour atteindre l'objectif. Donc le Sénat, c'est quand même pas des gens très énervés, oui, et très gauchistes.
Le Sénat a voté justement une rehausse de l'ambition à 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Mais il a raison, parce que c'est ce que la Commission européenne a demandé. Et donc, ça demande de revoir tous les objectifs. Et puis, je dirais, mais Christian pourra en parler, parce qu'il y a beaucoup travaillé sur la justice climatique, que nous nous inscrivons ainsi dans un mouvement qui est planétaire.
Oui, parce que Christian Huglot, depuis 2000, il y a eu, je crois, 1700 recours climatiques de par le monde.
Oui, dont 600 aux États-Unis, hein, ce qui est quand même quelque chose. Dans les pays anglo-saxons, en Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, il y en a eu en Afrique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a partout, pratiquement. Même en Suisse, il y en a eu, et en Belgique, ça a démarré, il y a eu la fameuse affaire Urgenda en Hollande, et comment dire, j'en suis en train de voir apparaître. Si vous voulez, le dessin, le vrai sujet, c'est celui-là. C'est en vertu de quoi les États seraient-ils contraints? C'est-à-dire, y a-t-il une règle supérieure, les droits de l'homme à l'environnement, les droits de l'humanité, Corinne vous en parlera plus en détail, parce que c'est sa spécialité, droits de l'humanité, qui est en train d'émerger et de constituer une règle universelle. C'est ça la difficulté. Alors, il y a différentes façons de l'approcher. Le Conseil d'État, lui, il l'approche en interprétant l'accord de Paris. Il dit, voilà, l'accord de Paris fixe des objectifs, donc c'est nécessaire à l'humanité. Mais c'est une approche technique. Il y a l'approche droit de l'homme, il y a des approches, si j'ose dire. Il y a même des juges américains qui ont invoqué le droit naturel de l'humanité à persister. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est fou.
Mais ce qui est intéressant, par exemple, vous parliez de l'accord de Paris. Tout le monde dit les accords de Paris ne sont pas contraignants, mais finalement, ils le deviennent parce que les États ont ratifié cet accord.
Oui.
Et du coup, se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
C'est assez intéressant parce que, vous savez, il y a un vieux proverbe qu'on emploie souvent qui est « les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Eh bien, des juridictions de tous les pays ont décidé que les engagements des États les engageaient. Ça paraît une évidence. Ben non, c'était pas une évidence. Et c'est donc appliqué aux Pays-Bas, c'est appliqué en France, espérons que ça va être appliqué, en Allemagne, la Cour de Karlsruhe a rendu il y a 2 mois une décision absolument historique, encore plus que ce qui va peut-être être rendu en France, puisque la Cour de Karlsruhe, elle a rajouté encore une louche, si je puis dire, en disant les États ont l'obligation de prendre en compte les droits et libertés des générations futures. Et donc vous allez faire peser sur les gens qui vont vivre en 2030 des atteintes tellement lourdes sur leurs droits et libertés. Et on voit que la question de la liberté rejoint la question de l'écologie, ce qui n'est pas si fréquent, hein, que vous ne pouvez pas, dans cette loi allemande sur le climat, ne pas vous préoccuper de ce qui se passe après 2030. Et donc votre loi, elle est inconstitutionnelle. Ça, c'est une révolution.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, Christian Huglot, c'est que ces recours sont aussi massivement portés par des associations d'enfants.
Complètement, des associations d'enfants, des collectivités publiques. Et ce qui est très amusant, c'est que grâce à Internet, ils se copient un peu, si vous voulez, une décision rendue au coin d'un État des États-Unis. Petite justice, c'est connu dans un quart d'heure après grâce à Internet. Et là, il y a tout un courant qui se fait. Et il faudrait pouvoir écrire, ce serait certainement un prochain bouquin, le futur code international du changement climatique et de la protection de la biodiversité. C'est le nouvel effort qu'il faut faire.
Je voudrais rajouter 2 choses à ce que vient de dire Christian. Le tribunal de La Haye, pas celui le méchant qui a rendu la décision dont on a parlé tout à l'heure.
La Cour suprême.
Mais le tribunal de première instance a décidé que la société Shell devait réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est révolution.
Ça a été salué comme un coup de tonnerre. Hein. C'est Roger Cox, l'avocat, qui est le même d'ailleurs qui avait défendu la fondation Urgenda en 2015. Et en effet, qui a récidivé en faisant condamner la compagnie pétrolière Shell à réduire de 45% ses émissions d'ici 2030. Et Roger Cox a dit « cet arrêt change fondamentalement le monde ».
Il a raison.
Il a raison.
Il a raison, parce que vous vous rendez compte, c'est une multinationale. Qui est-ce qui est obligé de faire ça? C'est la maison mère, RDS, et ses 1100 filiales et maisons mères dans le monde. Vous voyez un peu ça. Donc ça concerne pas les Pays-Bas.
Tout le monde doit réduire ses émissions.
C'est toute la chaîne de la société Shell. Mais ça veut dire que y a la même chose qui pend au nez de Total, d'Exxon.
Les actionnaires ont réagi.
Et les actionnaires d'Exxon ont réagi en obligeant à introduire 2 administrateurs qui ne pensaient pas comme la gouvernance d'Exxon. Et, très intéressant, qui doit réduire? C'est pas seulement Exxon quand il produit ou quand il fait travailler ses sous-traitants. C'est Exxon dans les produits qu'il vend, c'est-à-dire que ça concerne ses clients, vous et moi. C'est-à-dire que c'est nous tous qui devons participer à cette réduction de 45% à charge de Shell de faire la stratégie politique qui va bien et qui permet cette réduction. Ça, c'est une révolution.
Et alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est sur quel document, en fait, ce jugement a été rendu. Et bien, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que le droit souple devient du droit dur. Voilà. Alors, expliquez-nous ça.
C'est exactement ça. Sur quoi ? Alors, le jugement, il y a 85 pages de jugement. Moi, j'ai lu in extenso. Bon, il y a beaucoup de considérations générales sur le GIEC, etc. Et puis ensuite, ils ont pris ligne par ligne tout ce que Shell a écrit dans sa documentation. Tous les accords qu'ils ont signés, le Global Compact, les bons principes de
tel et tel
truc.
Oui, tout ce qui était qualifié jusqu'ici un peu de greenwashing.
C'est exactement ça. Ils ont dit, ben voilà, vous l'avez dit.
On prend au sérieux.
Vous l'avez dit, vous avez dit qu'il fallait réduire, etc., etc. Et pourquoi 45%? Parce que c'est sorti d'où ces 45%? Ce qui est complètement nouveau. C'est sorti du rapport du GIEC qui dit qu'on a 10 ans pour rester en dessous de 2% et que ça veut
de
dire
2 degrés.
Degrés.
Et donc ça veut dire moins 45% entre 2020 et 2030. Voilà.
Mais alors du coup, c'est pas tout à fait fini. J'imagine que Shell va faire appel.
Etc. Mais
ça produit ses effets.
Ça va produire des effets. Parce que
question, BP aussi a bougé.
Question, quelle va être, il y a d'autres procès qui vont être menés dans le monde. Et ce que disait Christian, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que grâce au Sabine Center, notamment, qui est un centre américain qui recense toutes les décisions rendues dans le monde, tout le monde a accès aux décisions. Et on construit un droit international comme les marches d'un escalier. C'est-à-dire que chaque décision rendue dans un pays sert au pays voisin. Et ce qui se passe, c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, ce qui se passe pour le climat commence à se passer pour la santé. Ce qui se passe dans le monde sur les pesticides, eh bien c'est la même chose, c'est-à-dire qu'une décision rendue aux États-Unis va me servir à moi en France, va servir aux Argentins qui ont des problèmes monstrueux, va servir dans le monde entier, c'est-à-dire que face à ce qu'on expliquait tout à l'heure des multinationales, vous avez une autre organisation qui est en train de se mettre en place, qui est une organisation de lien entre les citoyens et les juges, qui applique le droit de manière stricte, en prenant les engagements à la lettre, et qui contraint progressivement les États et les entreprises à changer.
D'où votre appel à la fin de votre livre, Christian Huglot, aux droits, virgule, citoyens, point d'exclamation.
Mais oui, bien sûr, à vos droits, citoyens. C'est vous qui faites le monde, hein. Vous pouvez le faire. Et donc, ça passe par le droit.
Et il faut s'inspirer donc de ce que font les autres.
Mais bien sûr.
Et alors vous vous battez au niveau international pour l'adoption d'un texte que vous avez remis à François Hollande en septembre 2015. C'est un rapport de 133 pages qui contient une proposition de déclaration des droits de l'humanité. Alors de quoi s'agit-il ?
Mais écoutez, c'est un texte très simple. On voit bien aujourd'hui que la question des droits de l'homme, elle demeure, bien entendu. L'intégrité de la personne, les libertés de penser, de croire, de s'exprimer, tout ça reste fondamental. Mais les sujets auxquels nous sommes confrontés sont des sujets collectifs. Et donc, la question posée, c'est celle des droits et des devoirs de l'humanité. C'est donc un petit texte que nous avons écrit, un petit groupe de travail, et qui fait son large bonhomme de chemin, notamment parce qu'il est soutenu aujourd'hui par la plus grande organisation des villes du monde, qui s'appelle Cité Groupement Locaux Unis, qui regroupe 250 000 villes dans le monde, plus de 5 milliards de gens, adopté par de très grandes villes françaises, bien sûr, mais aussi américaines, espagnoles, danoises, de beaucoup de villes du C40.
Sûrement africaines aussi, hein, parce que c'est, j'ai lu, très présent en Afrique.
Et il y a des villes africaines aussi. Et je suis très heureuse parce que les Maisons de la Francophonie ont adopté la DDHU il y a très peu de temps. Et donc, nous allons pouvoir travailler, puisque c'est une chaîne francophone, je suis heureuse de pouvoir l'indiquer, nous allons pouvoir travailler avec les Maisons de la Francophonie pour faire connaître dans tous les pays où il y en a cette déclaration qui est portée aussi par des Africains. Nous avons beaucoup d'ambassadeurs de la DDHU en Afrique.
Et mais ça, c'est mais très l'objectif important. De cette déclaration des droits de l'humanité, c'est quoi ?
Eh bien, à terme, c'est d'être reconnu et signé au niveau des Nations Unies, soyons tout à fait clairs. Sauf que le processus que nous avons choisi n'est pas un processus qui commence par les États, parce qu'on pense que là-dessus, on a zéro chance, mais qui commence par la base, c'est-à-dire les ONG, 80 ONG ont signé la déclaration, un certain nombre d'entreprises, des particuliers bien sûr, les villes, les avocats, les barreaux, beaucoup de barreaux ont signé, notamment des barreaux africains, ont signé la déclaration. Et nous voulons, par cercle concentrique en montant, arriver jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies et le faire adopter. Et je pense que la crise de la Covid a montré l'urgence et l'utilité de ce texte, qui est très simple, mais qui traite aussi bien des droits des espèces vivantes que des droits de l'humanité, qui traite de la question de la gestion du progrès technologique, qui traite de la question de la santé, qui traite bien sûr de la question du climat, des réfugiés climatiques, de la paix. Enfin, tous les grands sujets de l'humanité y sont abordés.
Christian Huglot, dans votre livre, vous revenez sur 50 ans de combat. Vous diriez que si on démarrait aujourd'hui, les ingrédients ont quand même bien changé, notamment avec la prise de conscience de la société civile qui, si on écoute ce que vous venez de dire, commence à faire basculer un peu le jeu.
Ça commence, mais l'effort de tension doit être le même. Parce que la confrontation que nous devons, à laquelle nous devons faire face, est terrible, est très importante. Je vais rebondir sur ce que disait Corinne. Il faut bien comprendre quels sont les mécanismes, comment l'inspiration vient au droit. Vous comprenez bien que dans les déclarations de 89, de 1777 pour les États-Unis, etc., il y a eu des clubs qui ont préparé des textes. Et à un moment donné, ces textes ont catalysé les idées et ils les ont rendues évidentes. Et donc les relectures de textes de ce genre-là ne peuvent pas ne pas impressionner les juges et les juristes aussi. Parce que ça donne la voix. C'est des bornes qui sont faites pour donner la voix. Je crois beaucoup aux idées et il faut des idées neuves pour avoir un droit efficace. Mais de toute façon, dans ces affaires-là, le résultat n'est jamais acquis. Et on peut toujours faire mieux, tout le temps.
Corinne Lepage.
Oui, ben je suis d'accord avec ce que dit Christian. Moi, je suis fascinée par les jeunes. Je pense que c'est eux qui portent beaucoup de nos solutions. Alors, je sais bien qu'on dit que beaucoup de nos jeunes, en France notamment, sont intéressés par le Front National et des choses comme ça. Mais quand vous voyez la mobilisation des jeunes pour le climat, quand vous voyez la portée de ce qu'une Greta Thunberg a pu faire et que personne n'avait pu faire avant elle, de mobilisation, quand vous voyez cette prise de conscience des jeunes qui ont envie de vivre autrement, qui veulent donner du sens à leur vie, qui voient les choses de manière assez différente, je trouve ça quand même, ça donne un petit brin d'optimisme qui fait beaucoup, beaucoup de bien.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, brin d'optimisme qui fait du bien. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, Nos batailles pour l'environnement, 50 procès, 50 ans de combat. C'est publié chez Actes Sud. Et j'invite aussi les auditeurs que cela intéresse à aller voir sur le site de votre cabinet où il y a aussi plein d'informations précieuses, huglot-lepage.com. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir ou témoigner, c'estpasduvent@rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées. Partagez, mettez des étoiles, ça nous fait bien plaisir. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. Littérature sans